Excellent dimanche à l'écoute de France Inter, il est 13h. Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Le cri d'alarme des médecins, nous allons être contraints de faire un tri des patients et pour éviter ce choix déchirant, il faut un confinement plus strict. Vous entendrez le professeur Bruno Crestani de l'hôpital Bichat à Paris. Pas de reconfinement pour l'instant. Emmanuel Macron indique qu'il faut d'abord mesurer l'efficacité des mesures de freinage, que le gouvernement se tient à la formule freiner sans enfermer et vacciner sans freiner. La vaccination est l'arme essentielle de lutte contre l'épidémie. Plusieurs vaccinodromes accueillent des patients tout au long du week-end, comme à Toulouse. Invité de ce journal, le professeur Vincent Boon, directeur du SAMU 31 de Haute-Garonne. À l'étranger, nous irons en Birmanie, où les rassemblements se poursuivent. Les manifestants se forment aux gestes de première urgence face à la violence et aux tirs de l'armée. Juliette Verlin à Rangoon dans un instant. Dans ce journal également, les écologistes dans la rue aujourd'hui, avant la loi climat à l'Assemblée demain. Et nous parlerons Formule 1 avec le début de la saison aujourd'hui à Bahreïn. La météo, un dimanche anticyclonique, et cela va durer quelques jours. Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal.
France Inter.
On va donc d'abord se rendre en Birmanie. Après le bain de sang d'hier, au moins 90 morts, dont des enfants, tous les mondiales ce matin. Après cette journée la plus sanglante depuis le coup d'État, les chefs d'État-major de 12 pays occidentaux, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon, condamnent l'usage de la force létale contre des personnes sans armes. Et aujourd'hui, en Birmanie, les manifestants sont à nouveau dans la rue pour demander la démocratie face aux balles et aux feux de la police et de l'armée, certains manifestants se forment aux gestes de premier secours. Sur place à Rangoon, notre correspondante Juliette Verlin.
Dans un appartement sécurisé à l'est de Rangoon, un petit groupe d'activistes s'est réuni dans le plus grand secret pour suivre un cours un peu particulier. Ce matin, un professionnel de la santé a été invité pour leur enseigner les bases de l'urgence médicale alors que la répression dans les rues se fait de plus en plus violente. Piel, l'un des organisateurs, est là pour traduire.
80% des gens touchés par une balle meurent dans les 10 premières minutes.
De plus en plus de manifestants et d'activistes recherchent des formations rapides comme celle-ci afin de sécuriser un blessé directement sur le terrain et de l'amener à l'ambulance la plus proche.
La première règle, quand vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide dans la rue, c'est de regarder autour de vous. Vous localisez le danger et la sortie.
Le cours se poursuit avec des mises en situation.
Si vous êtes seul, c'est très facile de transporter un blessé. Vous l'attrapez comme ça, vous le soulevez un peu pour que la tête ne touche pas le sol, et vous le tirez vers la sortie sécurisée que vous avez repérée plus tôt.
Les participants sont divisés en groupes de trois et apprennent l'usage d'un pansement inhabituel, la serviette hygiénique.
C'est le meilleur pansement du monde.
Puis on applique quelques tours de scotch et le tour est joué.
Au bout d'un moment, il doit me dire « Ah, mon bras !» Il ne doit plus sentir son bras, ok ? Tu sens ton bras ? Oui ? Alors ce n'est pas assez serré.
Les activistes repartiront chez eux avec leur kit individuel de premier secours et pourront transmettre à leur tour leur connaissance des gestes qui sauvent.
Juliette Verlin à Rangoon, en Birmanie, en bref, en Indonésie, une cathédrale visée par un attentat suicide ce matin. Après la messe des rameaux, au moins 14 personnes ont été blessées. En France, la préoccupation concerne les moyens de lutte mis en place contre cette épidémie de coronavirus en progression constante et l'alerte ce matin lancée par 41 médecins, les directeurs médicaux de crise des hôpitaux de l'APHP. Nous allons être face à des choix déchirants. Nous serons contraints d'ici de faire un tri des patients. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, les médecins précisent qu'ils n'ont jamais connu une telle situation, même pendant les pires attentats subis ces dernières années. Thibault Lefèvre a pu joindre le professeur Bruno Crestani, chef du service pneumologie à Bichat. Il est signataire de la tribune. Bruno Crestani demande que des mesures beaucoup plus contraignantes soient prises.
Aujourd'hui, on va devoir choisir ce qui est le mieux pour les patients en fonction des moyens que nous avons. Nous avons élargi au maximum nos capacités d'accueil de patients, notamment réanimation. Aujourd'hui, à l'hôpital Bichat, il y a des malades qui sont réanimés dans des blocs opératoires. On a déjà saturé tous les lits de réanimation. Et si on doit aller plus loin, ça veut dire fermer des blocs opératoires, les transformer en unités de réanimation. Ça veut dire qu'on n'opérera plus de patients. Il faudra choisir. Et on va arriver dans une médecine de catastrophe. C'est ce qui se prépare dans les 15 jours qui viennent. Mais si on veut que dans 15 jours, la situation s'améliore, c'est en effet aujourd'hui que doivent être prises les décisions. Ça n'amuse personne. Mais si on veut que dans 15 jours la situation soit moins intenable. C'est aujourd'hui qu'il va falloir prendre cette décision de confinement plus dur, en effet.
Bruno Crestani, professeur au service de pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris, avec Thibault Lefebvre. Et sous la double pression des services de réanimation débordés d'une troisième vague de l'épidémie qui submerge l'Île-de-France et plusieurs départements, la France entre dans les jours qui viennent dans une période décisive, mais pour l'instant, il ne semble pas prévu de durcir les mesures de restriction et les confinements déjà en place. Emmanuel Macron, dans un entretien au journal du dimanche, répond par avance à l'alerte lancée par les médecins que l'on vient d'entendre. Pas de reconfinement, on reste sur la formule freiner sans enfermer. Un bras de fer, Yael Goz, entre Emmanuel Macron et les médecins.
En entendant mercredi le président confier à Nikos Aliagas ses regrets sur le manque d'ambition des Européens dans la course au vaccin, certains ont cru à un début de mea culpa, européen peut-être, mais pas du tout national. Aucun remords, tranche jeudi soir Emmanuel Macron, bis repetita dans le JDD. L'unanimité scientifique n'a jamais été au rendez-vous, on ne s'est pas pris le mur en février. Allemagne, Italie, les confinements durs n'ont pas empêché une reprise de l'épidémie. Fin de citation. Et s'agissant de la troisième vague et des cris d'alarme du monde médical, il ne compte pas non plus céder à la panique, pas de conseil de défense avancé ou de prise de parole accélérée ce week-end, juste cette indication sans précision quand il évoque de nouvelles mesures de freinage. La doctrine ne change pas, on ne ferme les écoles qu'en dernier recours, l'Élysée garde son rythme, le dedans avec les miens, dehors en citoyen n'a qu'une semaine, et il faut d'abord en évaluer les effets avant d'envisager une correction de trajectoire. On reste humble et sans tabou face à l'imprévisible, confie un proche d'Emmanuel Macron, et plutôt que commenter la crise dans les hôpitaux, le président préfère projeter les Français sur la vaccination de masse avec cette promesse rappelée, faire que tous les adultes qui le souhaitent soient vaccinés avant la fin de l'été.
La vaccination est donc l'arme essentielle pour lutter contre l'épidémie. Le gouvernement veut une mobilisation générale de la vaccination et dans le plan de bataille, il y a les vaccinodromes ou centres de vaccination XXL. Plusieurs vaccinodromes vont ouvrir dans les prochains jours, notamment au Stade de France, à Saint-Denis, le 6 avril prochain. D'autres, comme à Toulouse, témoignent de l'accélération de la campagne de vaccination. Invité de ce journal, le professeur Vincent Boone, directeur du SAMU 31 de Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour professeur Boone.
Bonjour à vos auditeurs.
Donc vous êtes en ce moment dans le vaccinodrome qui est installé dans l'ancien palais des congrès à Toulouse et il y a beaucoup de monde depuis hier qui vient pour recevoir une première dose.
Alors oui, on voit passer beaucoup de monde, mais heureusement on est assez bien dimensionné, ce qui fait que les gens ne restent pas trop et qu'on n'est pas trop stagnant dans le bâtiment. Donc on va dire qu'effectivement on a des cibles vaccinales qui sont maintenant assez élevées, ça c'est bien.
Tous les adultes vaccinés avant l'été, disait Yael Goz en rappelant la promesse d'Emmanuel Macron, vous y croyez?
Écoutez, ça va être quand même effectivement très compliqué puisque là on va avoir probablement les doses de vaccins vont arriver, il reste qu'il va falloir trouver les bras, les hommes et les femmes pour injecter. Nous sur Toulouse, on est en train effectivement d'ouvrir ce très grand centre de vaccination et on devrait en ouvrir dans les jours qui viennent un deuxième beaucoup plus grand encore. Tout simplement pour essayer de se donner les moyens de cet objectif. Quoi.
Professeur Boone, de quel vaccin disposez-vous? Avez-vous des doses suffisantes? Parce qu'on a appris hier que dans les Hauts-de-France, deux centres de vaccination ont dû fermer, faute de doses de vaccin. Est-ce que vous, l'approvisionnement à Toulouse, suit correctement?
Alors oui, en fait, on a dimensionné, on va dire, on n'a pas de flux, on fonctionne assez tendu, on n'a pas de réserve. C'est du Pfizer et on est prévu sur un type vaccinal de 2000 personnes par jour, en fait 2100 personnes par jour actuellement. Puisque c'est uniquement ce rendez-vous.
Est-ce que vous avez donc aussi suffisamment de personnel pour vacciner? Certains centres ont dû passer des petites annonces pour trouver des personnes habilitées à faire des piqûres.
Alors, on va dire que sur Toulouse, on s'entend à peu près tous bien, que ce soit le secteur public, privé, les pompiers. Donc, c'est très œcuménique. On a beaucoup d'associatifs, on a des bénévoles, on a des réservistes, on a des pompiers, on a des médecins du SAMU, des infirmiers du SAMU. C'est vraiment une grande messe de tous les citoyens là pour essayer de porter cette action.
Ouais, professeur Boone, quelle est la situation sanitaire en Occitanie par rapport à l'Île-de-France ou les Hauts-de-France et les 19 départements qui sont sous les mesures de confinement?
Alors, elle est probablement un petit peu meilleure. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on est, on est quand même à des flux assez tendus, assez hauts, mais avec des capacités d'accueil qui ne sont pas encore saturées, donc ça c'est plutôt bien. On a accueilli dans les semaines qui précédaient des patients de PACA ou des patients de la région parisienne. On a pu aider nos confrères. Et puis, on sent quand même un peu d'assitude, un peu de morosité, un peu d'envie de passer à autre chose. Ça, c'est évident.
Ouais. Professeur Boone, vous avez entendu le cri d'alarme des médecins et du professeur Crestani. Contraints, disent-ils, de faire un tri des patients. Vous en pensez quoi? Vous comprenez leur démarche? Il faut des mesures. Est-ce que vous réclamez aussi, comme lui, des mesures plus fortes de confinement?
Alors oui, je les connais, hein, on se connaît tous dans le petit monde, on va dire, de la médecine d'urgence et de réanimation. C'est des médecins extraordinaires qui sont à Paris, mais c'est vrai qu'il faut les aider un petit peu là. Je crois que ils sont vraiment dans un état difficile. On sent que pour un médecin, choisir entre deux patients, c'est quelque chose de très dur à supporter, d'insupportable. Et on voudrait jamais y arriver, voilà. Donc oui, il va sans doute falloir un petit peu les aider, quoi. La première mesure, c'est quand même la distanciation sociale. Et ça, c'est chaque citoyen qui peut le faire, hein, n'oublions pas. Hein.
Professeur Boone, donc vous nous dites à Toulouse 2000-2100 patients, personnes vaccinées par jour. Il faut prendre rendez-vous, j'imagine.
Oui. Alors, effectivement, actuellement, c'est une opération qui vient de démarrer. On espère, dès que possible, peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent, passer tous les jours. Et puis, je vous dis, dès qu'on a les doses, et a priori, on nous annonce quand même beaucoup de doses, on va ouvrir un méga centre qui fera donc 4000 vaccinations par jour, si on peut.
Professeur Vincent Boone, merci beaucoup d'avoir été l'invité du journal de 13h chez France Inter. Merci à vous. Enfin, concernant les vaccins, donc 3 millions de doses doivent arriver la semaine prochaine et la production en France va démarrer le 7 avril. La société Delpharm va donc démarrer la production de vaccins Pfizer-BioNTech sur son site d'Eure-et-Loire. Autre préoccupation majeure, les contaminations à l'école. À partir de demain, dans les 19 départements concernés par les mesures de freinage de l'épidémie, les écoles fermeront si des élèves ou des enseignants sont testés ou ont été testés positifs ce week-end. Au lycée Eugène Delacroix à Drancy, en Seine-Saint-Denis, les professeurs du lycée ont écrit au président Emmanuel Macron et au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour demander le plus vite possible la fermeture de l'établissement. Dans ce lycée de 2000 élèves, les cas de contamination se multiplient et depuis un an, depuis le début de la pandémie, une vingtaine de jeunes ont perdu ou leur père, ou leur mère, ou un proche parent. La situation sanitaire est alarmante. Grégory Tuiza, co-secrétaire départemental du SNES FSU de Seine-Saint-Denis.
On est au pied du mur. Le Covid touche l'école. 54 élèves positifs et de nouveaux cas avérés chaque jour. Il y a 27 classes concernées par la présence d'au moins un cas positif avéré sur environ 80 classes au total dans l'établissement, pour un établissement de 2100 élèves. Il y a des lieux qui sont des incubateurs du virus. Je pense au réfectoire, à la cantine par exemple, ou au couloir bondé, donc une circulation virale plus importante. On est à un taux d'incidence extrêmement élevé dans le département, hein. On est à 777 pour 100 000. Donc les collègues considèrent que les mesures sanitaires sont inapplicables en raison du manque de moyens matériels et humains. Plutôt que de penser, comme le dogme ministériel, que les établissements scolaires sont sanctuarisés, on a ici la preuve que les établissements subissent de plein fouet les contaminations par la pandémie. Tant qu'on n'aura pas pris des mesures de prévention suffisantes, la seule alternative, c'est la fermeture.
Grégory Tuiza, co-secrétaire départemental du SNES FSU. Et à Barcelone maintenant, dans ce qui nous paraît être une scène surréaliste après un an de pandémie, on danse, on chante, on s'embrasse. Un concert a rassemblé 5000 personnes hier soir, un concert avec test de dépistage et avec masque, mais sans distanciation sociale. Ce concert, approuvé par les autorités, servira de test pour savoir si d'autres événements pourront se tenir dans les mêmes conditions. Sur place, Mathieu Le Taillac.
Si l'on regarde la scène et si le public est de dos, donc cela ressemble énormément à un concert comme avant. 5000 personnes debout face aux artistes qui lèvent les mains, qui chantent, qui dansent et qui sautent. Et en face, le groupe qui déroule son répertoire, dont nous empruntons quelques notes au journal El País, qui enregistrait le concert pour son site internet. Vu de l'autre côté, cette fois-ci, en se plaçant sur l'estrade avec les musiciens et en regardant le public, il y a tout de même une sacrée différence. Les 5000 spectateurs portent tous un masque FFP2, et la mesure la plus visible contre le coronavirus est loin d'être la seule. Tous les fans de Love of Lesbian ont dû passer un test antigénique le jour même. Quelques rares cas positifs, 4 à 13h45 selon El País, ont été écartés. Tous ceux qui étaient présents étaient donc négatifs. Un robot avait également désinfecté l'enceinte sur le palais de Sant Jordi par rayon ultraviolet. L'air est renouvelé constamment, quitte à ce qu'il fasse très frais sur les 4500 m² de la salle barcelonaise. Et l'espace est divisé en 3 zones infranchissables, chacune avec sa buvette et ses toilettes. Le concert s'est terminé sous les applaudissements. Quoi de plus normal, quoi de plus inhabituel. Madrid, Mathieu Le Taillac, France Inter.
Les écologistes dans la rue aujourd'hui avant le texte, demain à l'Assemblée nationale, très critique face au projet de loi du gouvernement examiné demain par les députés. Les associations environnementales manifestent pour une vraie loi climat. Des marches pour le climat sont prévues dans 160 villes à l'appel de 500 organisations pour faire pression sur les députés afin qu'ils rehaussent le niveau de leurs ambitions sur le climat et notamment sur les gaz à effet de serre. Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement, un réseau qui regroupe 3500 associations.
Ce serait bien dommage de pas réussir à réduire plus que de 10-13% les émissions de gaz à effet de serre avec ce projet de loi. Et pourtant, c'est ce que le bureau d'études mandaté par le gouvernement a estimé que le projet de loi arriverait à faire. C'est très très peu. Il s'agit de faire en sorte que on soit plus ambitieux maintenant déjà, parce que c'est la dernière loi majeure en la matière dans ce quinquennat. Mmh. Beaucoup de personnes n'ont pas encore conscience de la gravité de la situation. Le souci auquel on a affaire, c'est un manque cruel de culture scientifique de la plupart de nos décideurs publics ou privés actuels, finalement. Quand on se rend compte que à l'horizon de la fin du siècle, les enfants qui sont à l'école maternelle aujourd'hui seront encore vivants et se retrouveront dans un pays à plus 4 degrés, donc avec le climat du sud de la Tunisie, on se dit mais comment ils vont pouvoir vivre ?
Arnaud Schwartz, le président de France Nature Environnement, ce matin sur France Info. À l'étranger, aux États-Unis, plusieurs manifestations organisées ce week-end contre le racisme anti-asiatique après une année marquée par une recrudescence des violences à l'égard des Américains d'origine asiatique. Récemment, les meurtres d'Atlanta dans plusieurs salons de massage ont suscité la colère et depuis régulièrement, des manifestations sont organisées. C'est le cas notamment à New York, où vivent plus d'un million d'Américains asiatiques. Reportage Loïc Loury.
En finir avec la haine, dit le slogan, mais aussi avec les stéréotypes qui pèsent sur les Américains d'origine asiatique. Lynn est venue avec ses enfants manifester face à l'hôtel de ville. Je n'ai pas peur, je suis juste en colère. Les femmes sont hypersexualisées, les hommes sont ignorés, invisibles. Mais enfin, on assiste à une réponse collective à tout ça. Jenny se réjouit également de cette mobilisation, mais contrairement à Steve, les violences qui visent sa communauté sont pour elle une source constante d'inquiétude.
J'ai des parents qui sont âgés et c'est une foutue situation. Je ne sais pas s'ils sont en sécurité. Je conduis à Chinatown et je vois des femmes avec le visage tuméfié qui ont clairement été agressées. Et je ne peux pas les sauver de ça.
Une situation qui s'est dégradée au rythme des sorties racistes de Donald Trump sur le virus chinois. Steve, qui distribue des tracts, appelle un sursaut. Nous vivons dans une société fondamentalement raciste. 70 millions de personnes ont voté pour Trump. Mais on a vu ce qu'il est arrivé après le meurtre de George Floyd. Comment les gens y ont répondu. Nous avons besoin de ça maintenant. En attendant, les agressions se poursuivent contre la communauté asiatique à New York. 12 répertoriés par la police en 2021. C'est 12 de plus que l'an dernier à la même date. New York, Loïc Loury, France Inter.
En football, un rendez-vous important cet après-midi à 15h pour l'équipe de France au Kazakhstan. Les Bleus disputent leur deuxième match de qualification pour le Mondial l'an prochain au Qatar. Et puis en Formule 1, c'est la reprise aujourd'hui avec le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn et un événement sur la grille de départ à la 19e place, le premier Grand Prix de Mick Schumacher de l'écurie Haas. Le fils de Michael Schumacher, cette fois champion du monde, débute une carrière de pilote comme son père, officiellement toujours en vie, dans un état quasi végétatif après son accident de ski il y a 7 ans. Son fils Mick était avec lui ce jour-là. Inutile de vous dire que la carrière de Mick Schumacher, 22 ans, est très suivie en Allemagne. Berlin, Ludovic Vietenu.
Avec un nom pareil, l'attention médiatique est forte. Les journaux télévisés rappellent aux Allemands les premiers pas de sa jeune carrière. Le site internet de Bild, le quotidien le plus lu du pays, lui a même consacré vendredi soir un programme vidéo spécial. Il a les mêmes attitudes et les mêmes mimiques que son père, Michael, commente ce journaliste, qui rappelle ses débuts en karting sous une fausse identité, Mick Petch, le nom de jeune fille de sa mère, Corinna, puis sous le pseudonyme de Mick Junior, avant d'apparaître au grand jour comme Mick Schumacher en 2015. Pour ses débuts en Formule 4. Champion d'Europe de Formule 3 en 2018, puis de Formule 2 en 2020, le voici désormais dans la catégorie Rennes. Mais les médias allemands sont tous d'accord pour dire qu'il faut lui laisser du temps. L'hebdomadaire Der Spiegel évoque le retour d'un grand nom à même de relancer l'intérêt de par le monde pour un sport dont l'audience est en baisse, délaissé par les sponsors. La Formule 1 veut enfin investir les réseaux sociaux et toucher les plus jeunes, d'où l'entrée en lice cette saison de 3 pilotes de moins de 22 ans, dont Mick Schumacher, la tête de gondole. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Voilà, Mick Schumacher sur la grille de départ aujourd'hui du Grand Prix de le premier de la saison à Bahreïn. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Pierre Hameau.
Une belle séquence anticyclonique se met en place au moins jusqu'à mercredi prochain. Cet après-midi, l'ensoleillement sera généreux dans la plupart des régions. Un bémol tout de même avec la présence d'un voile de nuages élevés, parfois épais, des côtes de la Manche au Nord-Pas-de-Calais. Côté température, les maximales ne dépasseront pas la barre des 14 degrés à Brest, Cherbourg et Lille. Sous le voile nuageux, ça sera plus doux dans les autres régions avec 16 degrés à Nancy et Dijon, 17 à Paris comme à Orléans et Strasbourg, comptez 18 à Lyon et Marseille, 21 à Bordeaux et Toulouse. La maximale de 23 degrés sera observé à Biarritz. Demain lundi, le soleil va s'imposer partout. Prévoyez quelques bancs de brume ou de brouillard au lever du jour, en particulier du Sud-Bretagne à la Sarthe, mais aussi du côté du Val-de-Saône. Les températures vont monter d'un cran. Les maximales évolueront entre 18 et 25 degrés. Cette grande douceur va s'intensifier mardi et mercredi. On attend d'ailleurs des records de température du côté de la région Grand Est, avec des maximales jouant avec la barre des 25 degrés.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.